Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Affen & Co, la 70e collégiale de l'Affen. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir une personnalité importante de la formation, le directeur de la veille de l'AFPA. L'AFPA est une vieille maison qui est apparue en 49 et qui s'est dotée d'un directeur de la veille. On va pouvoir poser des questions à la fois sur à quoi sert un directeur de la veille et puis surtout qu'est-ce qu'il voit, parce que finalement, à force de faire de la veille, qu'est-ce qu'on peut déterminer comme stratégie? Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que sur sa façon de faire, de pair à pair, ça permettra à chacun de se positionner en prenant des trucs et astuces pour les autres responsables de formation. Eh bien, nous avons la chance d'avoir Gertien Toutou qui pose les questions. Eh bien, Gertien, bonsoir.
Bonsoir Stéphane et bonsoir Monsieur Santelman. Bienvenue dans notre émission.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Avec plaisir.
Bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Bonsoir.
Une première question, Gertie.
Oui, la première question que je souhaite vous poser est au sujet de votre métier. Moi, la première question que j'aimerais savoir, c'est vraiment concrètement à quoi sert un directeur de la veille à l'AFPA à l'heure actuelle?
Alors, j'ai toujours considéré que ma fonction de veille, de prospective, d'analyse de l'environnement n'était pas simplement au service de l'AFPA, mais était vraiment une démarche qui concernait l'ensemble du système de formation et l'ensemble des acteurs. Donc, je me suis toujours positionné par rapport aux problématiques du système de formation professionnelle, mais aussi du système éducatif. Et puis du système de travail, puisque tout ça est lié. Bon, donc, j'ai toujours tenu à avoir une position d'indépendance par rapport à la stratégie spécifique de l'AFPA. Et l'AFPA m'a laissé effectivement une marge de liberté quant à mes analyses, mes éclairages, la façon dont je pouvais essayer d'interpréter les transformations, les évolutions du système de formation.
D'accord. Et travaillez-vous en équipe à l'AFPA ou tout
Alors,
seul?
non, on travaille en réseau, c'est-à-dire qu'en réalité, au sein de l'AFPA, il y a plusieurs entités qui font des investigations sur les secteurs d'activité, sur le marché de la formation. Bon, donc moi, j'avais un petit peu un rôle de fédération des différentes entités qui travaillent sur les différents volets de la veille à l'AFPA. Donc j'étais un peu un synthétiseur finalement des travaux internes, mais surtout aussi j'ai essayé de m'approprier tous les travaux externes à l'AFPA et j'ai essayé de les rediffuser à l'interne auprès de ces réseaux. Donc c'était un travail un peu de médiation entre les acteurs internes de l'AFPA et les acteurs externes.
D'accord. Merci du coup de nous pour cet éclairage. Moi, ce que j'aimerais savoir, parce que en tant que veilleur, vous avez une vision du coup sur les différents changements et évolutions en
Peut-être
termes
en
de
restant sur la
formation.
partie organisationnelle, est-ce que à l'AFPA, le directeur de la formation qui synthétise, est-ce que finalement il y a de l'intelligence collective ou est-ce que c'est descendant? Est-ce que cette synthèse s'applique à tout le monde? Ou est-ce qu'il y a une communauté apprenante? Ou est-ce que vous réunissez une fois par an en physique? Comment ça fonctionne concrètement la veille?
Non, c'est moins organisé que cela. C'est-à-dire que l'AFPA est une grande maison qui a une tradition de logique centralisée, finalement. Hein. C'est un appareil national. Donc, avec un peu la logique descendante qu'on connaît bien en France, c'est-à-dire la tradition jacobine, étatiste. Bon, donc, de ce point de vue-là, j'ai essayé quand même de prendre un peu de distance par rapport à ces affaires, notamment quand on est au siège. Il y a notamment un élément important à comprendre quand on fait de la veille, c'est qu'est-ce qui se passe sur les territoires. Bon, et là, la relation et les liens étaient compliqués.
D'accord.
Difficile de faire de la veille sans lien avec le terrain, quoi.
Oui, bien sûr.
Et ça veut dire qu'alors une fois que tu as réalisé ta veille avec plus ou moins de terrain, est-ce qu'après ça prenait la forme d'une newsletter ou d'une autre, comment concrètement ça fonctionnait?
Alors ça, c'était un peu à géométrie variable en fonction du profil des directeurs généraux de l'AFPA. Bon, soit on était en convergence, et pendant une période, j'avais une chronique qui était diffusée sur la web TV de l'AFPA, et ces chroniques sont toujours en ligne. Et j'avais également une chronique dans le journal de l'AFPA. Bon, ces chroniques ont disparu depuis 1 an et demi à peu près. Bon, avec
Alors,
la nouvelle gouvernance,
alors,
j'ai eu moins de latitude à pouvoir avoir une expression indépendante par rapport à la nouvelle gouvernance.
alors, pour les auditeurs, tous ces éléments-là seront donnés en note de l'émission de façon à ce qu'on puisse les écouter. Et effectivement, elles étaient très suivies comme chronique.
D'accord.
Moi, je voulais poser une autre question parce que en tant que veilleur, comme je disais, tu as une vision. Je peux te tutoyer parce que c'est
Oui,
vrai que c'est pas une
bien
question que
sûr.
je t'ai posée. Tu as une vision différente sur, enfin, tu as une vision d'ensemble sur les différents changements et évolutions. Et alors, la question que je souhaitais vraiment te poser, c'est quels sont les réels changements entre le 20e et le 21e siècle dans le monde de la formation?
C'est une question très lourde. Moi, la principale évolution qui moi m'a marqué, c'est la façon dont le système de travail, dont le monde de l'entreprise a été amené à réinternaliser une partie des fonctions formatives, des problématiques de formation, des problématiques de rapport au savoir. Bon, alors ça a été lié notamment au développement de l'alternance et de l'apprentissage. Bon, en tout cas, étant donné que les entreprises ont été confrontées à de nombreux changements, hein, organisationnels, technologiques, le marché du travail, bon, les entreprises ont été amenées à se réapproprier des choses qui avaient été lourdement externalisées en France suite à la loi de 71, hein, qui avait finalement mis en place, comme le dirait Lutringer, un modèle séparatiste. Hein, il y avait le monde du travail, le monde de la formation, et la synergie entre les deux n'était pas extraordinaire. Sauf que le système de formation n'était plus en capacité de suivre toutes ces transformations du travail, et ça a amené l'entreprise à se réapproprier, pas de façon forcément organisée et pensée, mais finalement, il y a eu ce mouvement qui, moi, m'a paru intéressant. C'est que ce qui se passait en entreprise était quelquefois plus riche en réflexion sur le développement des compétences, les nouveaux savoirs, les nouvelles compétences, par exemple les compétences clés. C'était plus riche que ce qui se passait dans les organismes de formation qui étaient soumis un peu aux prescriptions des commanditaires et des financeurs, avec des cahiers des charges, avec des objectifs qui n'étaient pas forcément en lien avec la réalité du monde du travail. Donc, il y a eu certainement, de ce point de vue-là, un rapport de force nouveau qui est en train de s'installer entre le monde de l'entreprise et les opérateurs de formation.
Donc, tu trouves
On
que
peut
cette phase.
noter d'ailleurs que durant ces années, il y a eu des milliers d'entreprises qui sont devenues des entreprises formatrices, hein, c'est-à-dire qui ont développé des actions de formation. Et dans les 70 000 ou 80 000 prestataires de formation, 50 000 étaient des entreprises dont l'activité principale n'était pas la formation, mais qui participaient à ce mouvement. Et ça, c'était, de mon point de vue, très illustratif de cette transformation.
Je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est vrai que ayant la chance de faire de la formation, enfin de l'alternance, c'est vrai que ce qu'on voit à l'école, donc toute la partie théorique et quand on va en entreprise, ça permet d'asseoir les connaissances, de mieux connaître le monde du travail, le métier, et c'est beaucoup plus formateur, comme on aime le dire avec Stéphane, bah, on apprend en se formant en fait continuellement et vraiment en voyant les réalités des choses et pas que dans la théorie, parce que c'est vrai que c'est très important. Et par rapport du coup aux technologies, quelles sont les grandes
Alors peut-être
technologies?
avant les technologies, tu as parlé d'un mouvement d'internalisation de la formation. Et comment tu expliques de plus en plus qu'il y ait des structures qui externalisent la formation et qui ont pignon sur rue?
Alors, voilà. Là, il faudrait faire des analyses un peu plus fouillées parce que, en réalité, le monde de l'entreprise est très diversifié. Il y a les petites entreprises, il y a selon les secteurs, les dynamiques ne sont pas les mêmes. Bon, les grandes firmes ont leur propre stratégie. Donc, c'est ça aussi que j'essayais de comprendre dans ce mouvement. Le mouvement de réinternalisation n'est pas unilatéral. Il y a effectivement d'autres phénomènes où on voit l'entreprise qui a plutôt tendance à déléguer. Alors là, il faut travailler sur les cultures d'entreprise. On peut avoir dans le même secteur des stratégies, des logiques différentes. Bon, et ce n'est pas complètement nouveau, hein, mais certains secteurs ou certaines grandes firmes, par exemple dans les années 70-80, avaient développé leur propre structure de formation. Mais ils l'ont fait quelquefois dans une logique d'auto-centrage par rapport à leurs problématiques, avec un manque d'ouverture par rapport à l'extérieur. Ce qui est important aujourd'hui dans ce phénomène de réinternalisation, c'est de comprendre qu'il doit se construire en lien avec le monde réel, quoi, et pas simplement s'enfermer sur ses propres compétences et savoirs.
Est-ce que ça vous
L'entreprise a besoin de fluidifier finalement ses rapports avec la société, avec les territoires, au sein de son propre secteur. Bon, on a aujourd'hui des cultures d'entreprise qui s'effondrent, il y en a des nouvelles cultures d'entreprise qui se développent. Bon, il y a des échanges à développer. Puis il y a la stratégie des salariés. Beaucoup de salariés aujourd'hui ont leur propre stratégie par rapport à leur entreprise en matière de rapport au savoir et de développement des compétences.
Bien sûr.
Et c'est aussi un élément que l'entreprise doit comprendre. J'avais assisté à une. J'ai un retour sur mon téléphone qui est gênant. Je m'entends là.
Ah.
Un
C'est
petit
mieux.
problème technique.
Tout à fait. Est-ce que c'est mieux là?
Donc, je vais essayer. Ah, ça y est, c'est bon là maintenant. Donc oui,
Donc tu
j'écoutais
disais
un responsable de
qu'effectivement.
la formation d'une grande firme qui me disait que de nombreux cadres de son entreprise, finalement, s'étaient émancipés du plan de formation de l'entreprise et avaient sur leur propre denier, leur propre engagement et investissement en formation qui était indépendant finalement de la politique de formation de l'entreprise. Donc ça l'amenait forcément à réfléchir à notre type de dialogue avec les cadres, avec les salariés concernés.
Jean-Marie Lutringer, que tu citais tout à l'heure, montrait qu'avant le CPF, il y avait 1 million de personnes qui se finançaient tout seuls,
Je ne vous entends plus.
en dehors de toute structure. Et donc, effectivement, c'est bien le phénomène qu'on voit, c'est que les individus ont leur façon de faire. Donc, peut-être qu'on pourrait dire que à la fois la façon d'internaliser et d'externaliser, on externalise plutôt la gestion de l'organisation, et donc il y a énormément de structures qui font ça, alors qu'on internalise,
Allô, allô.
comme disait Paul, on internalise tout ce qui est le contenu, la pédagogie elle-même, et donc la façon de faire de la formation. Eh bien, Paul,
Il peut entendre.
est-ce que tu nous entends?
Paul, est-ce que là tu nous entends mieux?
Ouais.
Très bien. Et
Mais
donc,
j'entends pas Stéphane.
Donc, Gertie, tu avais une question à lui poser.
Oui, moi c'était par rapport aux technologies, parce que c'est vrai qu'on a parlé d'internalisation du coup maintenant de la formation,
Avec le
mais
e-learning, absolument.
voilà, mais du coup les différentes technologies, parce que c'est pour être honnête, entre le 20e et le 21e siècle, les technologies de formation ne sont plus du tout les mêmes. Donc je voudrais savoir quelles sont les grandes avancées en termes de technologie
Ah
que tu
bah,
as pu
là,
constater, bien sûr.
ça c'est clair que le numérique a pris une place
Eh oui.
importante, puisqu'il a permis finalement de modifier complètement cette logique du stage, où finalement on allait en formation dans un lieu en présentiel, en groupe. Donc le numérique, non seulement a permis de développer ce qu'on appelle le distanciel, c'est-à-dire un rapport complètement différent finalement par rapport aux formateurs, mais aussi par rapport à des groupes apprenants. Mais il y a aussi une diversification du numérique. Bon, donc on n'a pas simplement la formation à distance, on a eu l'arrivée des MOOC, des Serious Games, de tout un tas de stratégies finalement à la fois portées par les entreprises, les personnes et les opérateurs de formation. Donc on a une combinaison, une combinatoire de situation, de modalité de formation beaucoup plus large, beaucoup plus diversifiée qu'auparavant. Alors maintenant, le modèle économique qui sous-tend tout cela, il n'est pas encore complètement stabilisé. On a, à mon avis, on vit encore avec cette idée que l'information, c'est des heures stagiaires en présentiel. Donc, la problématique du financement de tout cela est, à mon avis, pose encore un certain nombre de questions. Alors, ça n'a pas beaucoup d'incidence pour les catégories professionnelles supérieures, pour les cadres, les ingénieurs, etc. Par contre, pour les moins qualifiés, pour ceux qui sont confrontés finalement à une nécessité d'évoluer professionnellement, de changer de métier, ceux qui sont menacés par le chômage, etc. Enfin, 20% de la population active qui est en difficulté sur le marché de l'emploi, le système économique, le modèle économique qui sous-tend la formation, par rapport à ses avancées en matière de modalités, de démarches, etc., il n'est pas encore trouvé.
D'accord, donc si je
Donc,
comprends.
eux, ils sont un peu pénalisés par rapport à l'organisation générale du système qui est en train de se transformer.
D'accord. Du coup, si je comprends bien, donc on n'est pas sur une fin du présentiel, évidemment. C'est
Le
toujours
vieux monde est
bien bien
encore
présent.
là. Hein. Bon. Si on prend le compte personnel de formation monétisé, bon, c'est appropriable par ceux qui ont une stratégie, qui ont déjà une stratégie d'auto-formation, c'est-à-dire qui ont déjà
Mais bien
leur
sûr.
façon de repérer les organismes de formation, les contenus de formation, les types de compétences qu'ils veulent développer. Par contre, une partie de la population est un peu désarmée par rapport à cette démarche, et ça nécessite un accompagnement. Alors curieusement, bon, cet accompagnement, on le voit pointer aujourd'hui, c'est plutôt les opérateurs de formation qui vont s'emparer, bon, de l'accompagnement et de l'information des personnes quant à l'usage du compte personnel de formation, ce qui personnellement me pose problème par rapport au lien entre l'engagement formatif des personnes et les besoins du monde de l'entreprise. C'est très
D'accord.
compliqué de savoir quel type de formation on doit avoir pour pouvoir être en phase avec les besoins du marché de l'emploi. Enfin,
D'accord.
je me limite à la formation professionnelle, hein. Et cela, aujourd'hui, il y a une façon de sortir de cette difficulté. C'est la capacité de l'entreprise à peut-être à mutualiser les comptes personnels de formation de leurs salariés et d'avoir un accord d'entreprise où on établit avec les salariés une stratégie partagée en matière d'objectifs. C'est-à-dire les objectifs qui sont conciliables avec la stratégie de l'entreprise et les objectifs qui sont conciliables avec les projets des personnes.
Est-ce qu'il y a
Donc
des...
de
C'est vraiment un...
l'entreprise va devoir s'emparer de ce sujet-là.
D'accord, donc c'est vraiment en fait c'est vraiment un travail d'équipe aussi bien en haut de la direction et aussi bien que le salarié. Est-ce que par exemple tu aurais un exemple concret?
Pour l'instant, moi, je n'ai pas encore identifié des accords d'entreprise autour de cette affaire. Je sais que l'ANDRH avait émis l'hypothèse d'une obligation d'usage du CPF par les salariés, mais ça ne tient pas la route. Hein. Le ministère du Travail n'acceptera pas et ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, il y avait quand même l'idée que il doit y avoir un dialogue au sein de l'entreprise sur l'appropriation et l'usage du CPF. Il y a quelque temps, j'avais discuté avec la DGEFP, là, qui est chargée de la réglementation de tout ça, parce que, bon, on a à la fois une politique de libéralisation de l'offre de formation et l'usage de la formation, et en même temps, on a une tradition réglementaire qui accompagne tout cela, et bon, qui est dans les gènes de l'interventionnisme d'État en France. Et la DGFP, effectivement, était en train de réfléchir à cette question du contenu des accords d'entreprise quant à l'usage du CPF. Mais il faut aussi que le monde syndical, les représentants des salariés, s'engagent là-dessus, quoi. Je ne sens pas du côté des syndicats, on va dire, ils sont un peu mobilisés sur la question de retraite. Il vaudrait mieux qu'ils se mobilisent sur la question de travail et de formation,
Bien sûr.
parce que c'est ça qui détermine finalement le rapport qu'on peut avoir à la fin de vie professionnelle. Parce que la formation, notamment en deuxième partie de carrière, c'est ce qui permet d'envisager quand même positivement la vie au travail et non pas le déclin, comme on est habitué en France à considérer la deuxième partie de carrière. Mais
D'accord.
je
Et
reviens à
est-ce
mon
que...
exemple du compte personnel de formation, il y a certainement à trouver une modalité collective, mais qui donne à la fois la liberté aux personnes de fixer des objectifs, mais à la fois que ce soit en synergie aussi avec les besoins de l'entreprise. En tout cas,
Oui,
on ne
bien
peut
sûr.
pas oublier deux voies.
Ah oui, de toute façon, si, et je crois vraiment en ça, c'est un travail d'équipe parce qu'en soi, quand on est dans une société, l'objectif, c'est d'être épanoui dans cette société et du coup d'avoir une vision aussi sur le long terme pour avoir un changement de carrière, pouvoir découvrir d'autres métiers et tout en étant en accord avec les besoins de l'entreprise, bien évidemment.
Et puis, il faut quand même savoir que dans les nouvelles dispositions réglementaires concernant l'entretien professionnel, etc., l'entreprise peut abonder le compte personnel de formation, soit en temps, soit de façon monétisée. Donc, on peut arriver à une co-construction finalement de la logique d'investissement en formation et en compétences des personnes et des collectifs de travail. C'est un point important. Autrement, on risque d'avoir un compte personnel de formation qui reste l'apanage d'une partie de la population autonome, bon, mais qui finalement ne concernera pas le gros des troupes des salariés.
D'accord. Alors, à ton avis, en fait, selon toi, est-ce que la plateforme CPF est-elle une bonne idée ou ça se discute encore?
C'est-à-dire quelle plateforme, enfin le site.
Oui,
Absolument.
exactement, oui.
Oui, là. Oui, moi je pense que c'est très compliqué pour les personnes de rentrer dans ce système. Il faut arriver à simplifier et à mieux organiser cette affaire.
Faut un accompagnement, bien évidemment,
Il
un
faut un
accompagnement plus présent.
accompagnement. C'est clair que la façon dont on peut trouver une formation qui corresponde à ses projets. Quand on rentre dans le système, c'est extrêmement difficile. Bon, nous qui sommes des professionnels de la profession, bon, à la fois on a testé la plateforme pour retrouver nos propres formations, mais aussi pour trouver des formations avec des intitulés qui ne correspondent pas au libellé des certifications. Donc, il y a quand même une complexification lourde qui est aussi liée la séparation qu'on a fait entre le système de certification et le système de formation. Bon, ce n'est pas exactement les mêmes langages, quoi. Et en plus, le langage des personnes, bon, à la fin, on ne forme pas des plombiers, mais on forme des tuyauteurs. Bon, quand les gens cherchent une formation de plombier, qui est l'usage courant du terme, bon, ils ne
Ah bah,
trouvent pas de
ils sont un
formation
peu
de
déçus.
plombier à la fin parce qu'on parle de tuyauteur et on ne parle pas de plombier. Donc voilà, faut arriver à trouver des modalités d'accompagnement, mais aussi de présentation de l'offre de formation un peu plus affinée. Bon, on sait qu'aujourd'hui, le compte personnel de formation, bon, ce qui est en pointe en ce moment, c'est le permis de conduire, parce que ça, c'est connu. C'est l'anglais, c'est le CACES, c'est des choses un peu grand public. Mais si on veut trouver une formation de maintenance en robotique, parce que plus on va implanter de robots dans les entreprises, ça va pas forcément détruire des emplois, ça va développer des emplois de maintenance, parce que les robots tombent en panne. Et on va être en retard là-dessus parce que le modèle économique global du système de formation professionnelle n'incite pas aujourd'hui les opérateurs à se lancer dans la maintenance en robotique. C'est pour ça que les entreprises sont en train de s'emparer du sujet, d'ailleurs, avec la réforme de l'apprentissage qui bascule du côté professionnel. Bon, et la possibilité pour les entreprises de créer leur propre centre de formation d'apprentis, je pense qu'on a 500 CFA d'entreprises qui sont en train aujourd'hui d'être créées, quoi. Hein, ça veut dire qu'il va y avoir une transformation aussi de l'appareil de formation lui-même avec cette possibilité pour les entreprises de s'investir et de créer leur propre CFA, ce qui ouvre des perspectives intéressantes. Quant au développement aussi de la capacité de l'entreprise à accompagner le développement des compétences, pas simplement des apprentis, mais de leurs propres salariés, voire d'autres salariés, dans d'autres entreprises. Et là, il y a des dynamiques territoriales à construire. Bon, dans les pays où l'apprentissage est développé, comme en Suisse, en Allemagne, au Danemark ou en Autriche, bon, l'entreprise acquiert une culture, développe une culture de transmission des savoirs et de développement des compétences qui bénéficie à l'ensemble des personnels, et pas simplement aux jeunes.
D'accord, donc du coup, est-ce que, enfin, si je comprends bien, ce qui est bien, c'est vraiment que les entreprises créent en soi leur propre CFA, en fait, vraiment, vraiment dédié à leurs besoins, à leur métier.
Alors c'est ça. Alors le risque, c'est un peu l'enfermement sur sa propre culture d'entreprise. Et on sait que les structures de formation d'entreprise ont tendance quelquefois à devenir conservatrices et à pas accompagner les innovations et le changement. Donc il faut trouver vraiment les bonnes formules où des opérateurs externes continuent à travailler avec les entreprises. Il faut trouver un nouvel équilibre entre des opérateurs ou des prestataires externes qui apportent du sang neuf et la réflexion nouvelle à l'entreprise, et puis organiser les fonctions formatives internes. Il faut trouver une combinatoire entre l'externe et l'interne. Hein. C'est certainement là-dessus qu'il faut réfléchir et trouver le bon modèle économique. Là aussi, il faut réfléchir en quoi une entreprise et un opérateur de formation ou un opérateur de compétences peuvent trouver un deal où ils s'y retrouvent d'un point de vue économique. Parce que je vois mal aujourd'hui un opérateur de formation concéder à une entreprise son propre chiffre d'affaires. Donc il faut trouver des nouveaux partenariats et des nouvelles logiques de marché. Bon, mais ça se fera. Hein. Bon, la nature aura une fine, donc on
Oui.
trouvera des modalités.
Et
Pour l'instant, on est en transition.
est-ce que l'EdTech pour toi apporte ce sang neuf qu'on cherche, que les organismes de formation cherchent, ou c'est pas assez?
J'ai pas compris.
Est-ce que pour toi, l'EdTech apporte ce sang neuf dont tu nous parlais précédemment, ou ça n'apporte pas une innovation particulière?
Merci. Il y a trop de situations diversifiées. C'est difficile aujourd'hui d'avoir une tendance forte qui s'impose. Il y a
D'accord.
beaucoup de situations. On part d'une situation quand même, il y avait 70 000 prestataires de formation. Donc
D'accord.
un milieu très atomisé qui avait peu d'influence en réalité d'un point de vue, parce que t'évoquais tout à l'heure mon travail de veille prospective, c'est aussi un travail d'influence. Et le système d'acteurs de la formation continue, pour dire vite, a une influence très très faible. Bon, en dehors de ce système d'acteurs, personne ne les connaît. Bon, ils ne pèsent pas dans les grands arbitrages. Et comme on est dans une société où les arbitrages réglementaires de l'État institutionnel pèsent lourd, l'éducation nationale a beaucoup plus de poids que le système d'acteurs de la formation continue. Ça, c'est quelque chose qui pose problème, parce qu'on est toujours quand même dans cette idée que c'est en formation initiale, c'est à l'école, à l'université que tout se joue, mais qu'après, bon, chacun se débrouille, mais finalement, le rapport au savoir, ça se construit en formation initiale, ça ne se construit pas tout au long de la vie, malgré le slogan. Et là, on voit bien qu'avec le débat sur l'emploi des seniors, bon, on a un taux d'activité des seniors plus faible qu'ailleurs, qui pose d'ailleurs tout le problème de la réforme des retraites.
Retraite,
Si on veut que
oui.
les personnes, les actifs à 40, 45 ans, 50 ans se disent comment je fais pour évoluer professionnellement, il va bien falloir réfléchir aux mécanismes et aux leviers qui permettent aux gens d'investir encore sur le développement des compétences. Pour
D'accord.
travailler plus longtemps, mais aussi pour travailler dans de meilleures conditions, et faire des choses qui nous intéressent, quoi.
Mais du coup, comment tu vois la formation dans 10 ans, à peu près, ou peut-être même 20 ans?
Ah. Alors, la prospective, ce n'est pas la prévision, hein. Donc, on essaye d'établir des scénarios. Bon, moi j'ai trouvé que l'expérimentation sur les actions de formation en situation de travail était intéressante parce qu'elles permettent de réfléchir à la fois à la formation et à la fois au travail. Bon, et que de ce point de vue-là, cette expérimentation, qui fait des petits là en ce moment, mais c'est un peu compliqué à mettre en place, mais au moins on soulevait une question cruciale de mon point de vue. Et on ne peut pas dissocier le travail et la formation professionnelle. On a besoin de réfléchir à ça en même temps, parce que si on a des mauvaises conditions de travail, ça n'est pas porteur pour l'investissement en formation. Donc, il y a une bataille à mener pour l'amélioration des conditions de travail, et ça veut dire une réflexion sur le choix des technologies, le choix de la responsabilisation des salariés sur un certain nombre d'enjeux comme l'environnement. Bon, on a des grands défis quand même,
Oui,
enfin,
bien sûr.
avec la planète qui est en train de mourir
De mourir.
lentement et brûler. Bon, et ça interpelle le système productif, ça interpelle notre façon de travailler, les choix des entreprises, etc. Bon, donc c'est complètement lié aussi à la connaissance de tout cela et au savoir. Donc vraiment, il y a un débat à développer au sein du monde de l'entreprise sur le sens du travail et le sens, la façon dont le système de production
Évolue,
évolue et
bien
intègre
sûr.
les nouvelles problématiques sociétales et environnementales.
Et chaque entreprise devrait faire de la fête ou enfin, à ton avis.
Je n'ai pas bien compris
Pour toi,
l'analyse.
Allô, est-ce que tu m'entends mieux là?
Un peu mieux,
Oui.
ouais.
Est-ce que chaque entreprise devrait enfin,
Expérimenter.
faire voilà enfin permettre comment dire enfin, des actions de formation en situation de travail assez régulièrement ou voilà est-ce que c'est une roue qui doit continuellement
Alors,
tourner ou enfin moi j'ai
nous,
mon avis sur la
à la
question
fin, on avait développé dans les années 80-90, mais j'étais pas encore à la fin à cette époque-là. la formation intégrée au travail. Hein. C'était l'idée d'équiper une entreprise sur la façon dont on peut optimiser le potentiel d'apprenance, potentiel de formation des collectifs de travail des salariés. Bon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à une entreprise d'organiser toutes les semaines une action en formation de situation de travail. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de travailler avec elle sur l'identification de tout ce qui peut servir à la mise en place d'actions en formation de situation de travail. Bon, ce qu'on a vu dans l'expérimentation à Fest, c'est qu'il ne suffisait pas de désigner un formateur d'entreprise pour accompagner la démarche, mais que finalement, ce formateur qui était désigné pour accompagner une AFEST faisait appel à ses collègues, réfléchissait à la façon de réorganiser le travail pour pouvoir y inclure des séquences formatives. Donc, il y avait toute une réflexion qui entraînait le collectif de travail. Et je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut essayer de travailler avec les entreprises, c'est de leur dire, écoutez, dans votre entreprise, vous avez des savoirs masqués, vous avez des compétences qui ne sont pas suffisamment valorisées. En tout cas, vous avez besoin de réfléchir à qu'est-ce qui vous identifie au niveau de vos savoirs d'entreprise. Bon, donc, c'est autour de cela qu'il faut peut-être travailler avec le monde de l'entreprise, parce qu'on n'a pas la culture des pays où il y a eu un investissement sur l'apprentissage, où, comme je disais, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, c'est un peu naturel dans l'entreprise de réfléchir à la façon dont on développe les compétences des nouveaux arrivés, par exemple, alors qu'en France, il y a quand même cette tendance à vouloir avoir des gens qui sont complètement déjà professionnalisés au moment où les embauchent. Bon.
D'accord. Donc, c'est vraiment, en fait, revoir le sens du travail. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, bah, en fait, c'est que la place des robots du numérique est là, est présente en formation. Et comment toi, tu vois cela? Est-ce qu'on est plus sur de la science-fiction ou une réalité à venir?
Alors, il y a plusieurs, finalement, le développement des robots, du numérique, de l'intelligence artificielle, elle se fait dans des logiques différentes. Il y a par exemple le développement des robots collaboratifs, hein, les cobots, bon, où on essaie justement de développer des robots qui savent coopérer avec des travailleurs, avec des humains, plutôt que d'avoir des robots qui les remplacent. Bon, et ce couple entre le robot collaboratif et le travailleur, c'est intéressant parce que le robot apprend du travailleur et le travailleur apprend du robot. Et ça me paraît une option beaucoup plus intéressante et moins anxiogène pour les salariés d'ailleurs, que cette idée que les robots vont finalement remplacer les hommes. En réalité, les robots ont des compétences spécifiques et les hommes, les humains ont des compétences spécifiques. Et on n'a pas forcément intérêt à ce que le robot reproduise complètement ce que ça veut faire les humains. Il faut plutôt travailler à la complémentarité robot-travailleur. Mais les entreprises, là, pour le coup, et là, c'est un rôle aussi des syndicats, à mon avis, il faut s'investir sur
Oui,
cette question.
bien sûr.
Le syndicalisme français a toujours eu des réticences à s'engager sur une réflexion sur les innovations organisationnelles, technologiques, etc., en disant c'est l'affaire du patron, c'est pas l'affaire des syndicats. Bien sûr que si, que c'est l'affaire des
Ben si,
syndicats.
si.
Le patron n'est pas toujours
Si.
le mieux placé pour savoir comment il faut moderniser une entreprise. Les salariés ont leur mot à dire. Et ce qui s'est passé dans l'expérimentation à Fest, là, c'est que c'était l'occasion pour les salariés de parler, d'évoquer les dysfonctionnements qu'ils avaient repérés, mais dont ils n'avaient jamais osé parler au patron. Et finalement, la mise en place de cette action de formation situation de travail était l'occasion de discuter des dysfonctionnements d'entreprise et d'avoir un dialogue entre l'employeur et les salariés et de trouver ensemble une résolution au problème. Donc voilà, c'est des petits exemples, mais je pense que c'est dans cette culture-là, dans cette logique-là qu'il faut aller.
D'accord. Et du coup, en soi, en formation, pour toi, quelle forme ça prendrait exactement, en fait, avec l'intelligence artificielle, le big data, toutes ces technologies, et toutes les, même les données et tout, tout ce qu'on voit apparaître, pour toi, quelle forme ça prendrait?
Bah, je pense qu'on aura plusieurs types de formes, mais par contre, moi, je pense qu'il faut toujours articuler les innovations technologiques et les innovations sociales. Si
Bien
les
sûr.
collectifs ne s'emparent pas de ces sujets-là, on va avoir des dérives techniciste, hein, comme on dit. C'est-à-dire, on pense que la technique peut tout résoudre, ce qui n'est pas vrai. L'intelligence artificielle ne peut pas tout résoudre. Bon, les robots ne peuvent pas résoudre un certain nombre de questions. Donc, on a besoin de revaloriser finalement la valeur ajoutée des humains. Hein. Je pense qu'il faut se méfier des déterminismes technologiques. On a l'impression qu'on a un modèle qui va s'appliquer à tout le monde et qui va complètement inféoder la société du travail. Non, non, moi je pense qu'on a des alternatives différentes qui vont se construire. Bon, simplement, on manque un peu peut-être de vigilance sur toutes ces questions. Bon,
D'accord.
on travaille beaucoup sur la question de chômage et de retraite. On travaille moins qu'à une époque sur les questions de transformation du travail. Ce qui est curieux, il y avait plus de chercheurs qui s'intéressaient aux transformations du travail à l'époque du taylorisme qu'aujourd'hui, alors qu'il n'y a jamais eu tant de transformations et de mutations
Ça.
masquées dans l'exercice du travail.
D'accord. Et revenons à l'heure actuelle, parce qu'on est parti très loin dans le futur, mais selon toi, maintenant, quelle technologie, en fait, on devrait surveiller de près en cette nouvelle année?
Oh. Quelle technologie? Non, je peux pas. Je pense qu'on surestime un peu la portée de l'intelligence artificielle. Hein. On fait un peu des plans sur la comète. Il faut regarder ça de près parce que c'est la gestion par les nombres. Hein. C'est le big data. C'est un peu des rêves technocratiques aussi. Hein.
Mais je
Il y
pense aussi.
a. Mais en même temps, quand on voit le tissu économique d'un pays comme la France, bon, on a des millions, on doit avoir 1,5 million de TPE. Bon, petites entreprises de 5, 6 salariés, de 20 salariés, par rapport à tout ça, bon, voilà, quoi. Il ne faut pas raisonner comme si on avait un système productif où tout le monde travaille dans la même entreprise. En réalité, on a une grande diversité. Moi, la question qui se pose, ce n'est pas tellement les technologies, c'est vraiment la question des territoires. On a vraiment une fracture en France, on l'a vu avec les Gilets jaunes. On a deux France qui sont en train de se faire face. Hein. Et là, pour le coup, les opérateurs de formation, les structures qui sont porteuses, une réflexion sur l'avenir professionnel. Elle doit s'investir sur les territoires. Il y a une initiative intéressante qui est la territoire zéro chômeur de longue durée, qui s'est
D'accord.
développée depuis quelques temps, là, où on remet au travail des chômeurs de longue durée dans des territoires paumés, où il n'y a plus d'entreprises, où il n'y a plus de services publics. Puis finalement, on remet au travail des chômeurs de longue durée. Parce que comme il n'y a pas d'entreprise pour les embaucher, finalement, l'idée, c'est d'identifier tous les besoins de la population locale et d'essayer de construire ces besoins. Donc, diagnostic avec ces bon, et on crée donc de l'activité en partant. Ça me paraît plus porteur, de sens que l'intelligence artificielle. Bon, j'exagère un peu, mais
Non.
je pense que si on n'appuie pas et on ne regarde pas les initiatives locales du travail et de l'emploi, on va perdre de vue le sens de l'usage des technologies.
D'accord. Donc en soi, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est que les technologies, c'est bien, mais l'humain aussi a une énorme place dedans. Et c'est ce qui aussi, c'est ce qui fera avancer et la formation et la société de façon générale.
Bien sûr, bien sûr.
Le fameux tech for good.
Et oui. Et du coup,
On arrive à la fin.
même si on est parti sur pas particulièrement les technologies, mais en soi, est-ce que les organismes de formation, est-ce que tu as une idée sur quoi ils devraient s'investir? Pas particulièrement l'intelligence artificielle, mais YouTube, quelque chose en particulier?
Je pense que comme on a affaire à beaucoup de petites structures de formation, bon, elles ont un peu le nez dans le guidon. Elles sont en train de réfléchir aujourd'hui à la façon dont elles peuvent répondre à l'application du compte personnel de formation monétisée, parce qu'il y a des exigences lourdes qui vont s'appliquer aux organismes de formation. Il y a la certification des organismes, etc. Les opérateurs de formation, même des gros opérateurs comme l'AFPA, bon, ont du mal à se projeter dans le futur. Hein.
D'accord.
C'est vraiment la problématique du nez sur le guidon, de répondre à tous les appels d'offres qui viennent de tous les côtés et de rafler les parts de marché plus grandes, mais on manque un peu d'anticipation.
D'accord. Et moi, avant du coup la fin de cette émission, j'avais une dernière question à te poser, et je pense pas des moindres. Est-ce que tu aurais des outils de veille, de sites, de magazines fiables à nous conseiller?
Des
Oui.
veilles. Ben, non, je sais pas, il y en a trop, pas assez,
Une
c'est
petite
compliqué.
liste.
Moi, je ramasse un peu tout ce qui bouge. Moi, je participe à une revue futurible, une revue
D'accord.
prospective, donc qui produit des analyses intéressantes. Donc au moins, bon, c'est une revue qui moi, m'apparaît assez complète dans le sens où elle essaye d'aborder l'ensemble des sujets qui déterminent un peu les transformations de l'emploi, de la société, etc. Donc futurible, hein, ça vaut le coup de suivre cette revue, hein, il y a des choses intéressantes.
D'accord, bah c'est noté, futurible.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Paul. Merci pour toutes ces précisions. C'était très
Je
enrichissant.
vois Stéphane qui bouge ses lèvres, mais je ne l'entends pas, donc.
Absolument. On a eu quelques problèmes techniques, mais Gerti et Paul ont su parfaitement gérer la situation. Ce qu'on fera, c'est que si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser à la suite de l'émission.
Ah,
Sinon, vous pouvez avoir sur LinkedIn.
merci de m'avoir écouté, j'espère que.
Sur LinkedIn, vous pouvez taper Paul Saltelman et vous aurez toutes les informations nécessaires. En tout cas, un grand merci à vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures, dont particulièrement, puisqu'on a parlé de la certification, on devrait avoir bientôt une émission sur la certification des organismes de formation qui sera particulièrement intéressante. Bien, je n'arrive pas à éteindre. Bon.